soir, deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Vous le savez, les déclarations de Nairobi signées entre le gouvernement et le M23 jeudi dernier, mettant ainsi fin au pourparlers de Kampala, suscitent déjà des réactions dans la classe politique congolaise, notamment du côté de l'opposition. Comme deuxième thème, nous allons aborder le lancement par la brigade d'intervention de la MONUSCO des opérations offensives contre les rebelles rwandais des FDLR et les rebelles ougandais des ADF Nalu. Objectif, mettre fin aux groupes armés locaux et étrangers. Trois confrères journalistes commentent avec moi cette actualité. Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Albert.
Bonsoir Alain.
Trésor Makunya Moindo, journaliste à la radio Mitumba d'Ovira et correspondant du journal Sifia Grand Lac au Sud Kivu. Bonsoir Trésor.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Claude Molicho Kayembe, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Bonsoir Claude.
Bonsoir Alain.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Des regroupements de l'opposition, notamment les forces acquises au changement, FAC et la coalition pour le vrai dialogue CVD, réagissent aux déclarations de Nairobi signées entre le gouvernement et le M23 pour clôturer les pourparlers de Kampala, ainsi que le lancement des opérations offensives de la brigade d'intervention de la MONUSCO contre les FDLR et les ADF Nalu. Voyons comment la presse kinoise a traité ces sujets avec vous, Kevin Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par le quotidien Le Potentiel qui informe que des voix s'élèvent au sujet des documents signés le 12 décembre dernier à Nairobi. Le journal cite le parti politique Alliance des Congolais pour la réforme et le développement, accord en sigle, qui demande de la publication des deux déclarations signées à Nairobi. Et pour cause, c'est afin que la population congolaise ne soit pas surprise par l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire lors de la mise en œuvre des engagements conclu par le gouvernement. Les FAC, force acquise au changement, plateforme de l'opposition, dénoncent les termes de ces déclarations qui, selon elles, ressemblent à un accord et accordent beaucoup d'avantages au M23, à lire sur www.radiocapi.net. Autre réaction, c'est celle de la coalition pour le vrai dialogue, CVD en sigle, une autre plateforme de l'opposition qui condamne la signature des déclarations de Nairobi qu'elle qualifie d'engagement de la honte. À lire également sur www.radiocapi.net. Le quotidien du groupe L'Avenir, quant à lui, revient sur la déclaration de Nairobi et annonce que la MP réplique à la CVD. Dans une mise au point devant la presse, relève le tabloïd, la majorité présidentielle a qualifié de démagogique et tendancieuse l'interprétation de la coalition pour le vrai dialogue au sujet de la signature de la déclaration de Kampala mettant fin aux discussions entre la RDC et les M23. Le confrère souligne que la MP a rappelé qu'au sein de la fameuse coalition pour le vrai dialogue, certains étaient des connivences avec ceux qui tuaient, violaient femmes et enfants et pillaient les ressources naturelles dans l'est du pays. Changeons de chapitre pour parler des opérations offensives menées par la MONUSCO Nord-Kivu. Martin Kobler, chef de la MONUSCO en colère, note le palmarès au sujet de la découverte des corps des 21 personnes, dont un enfant de quelques mois tué dans les villages de Moussoukou et Mwenda en territoire de Beni au Nord-Kivu. Pour l'heure, rapporte encore le palmarès, M. Martin Kobler a ordonné que la MONUSCO renforce ses patrouilles dans les zones concernées et utilise tous les moyens nécessaires pour protéger la population civile. L'Avenir indique que cet acte porte la signature des ADF Nalu qui s'illustre ces derniers temps par des tueries et autres actes barbares. Et le journal de s'interroger à quand les débuts de la traque des autres forces négatives après la reddition du mouvement rebelle M23. Pendant ce temps, le journal La République renseigne que selon des sources concordantes, l'ADF Nalu est armé par Museveni. Sous la même lancée, la tempête des tropiques note qu'après le M23, c'est au tour des ADF Nalu de défier les FRDC et la MONUSCO. Pour la consoeur, l'horreur continue au Nord Kivu.
Merci Kevin Kouté. Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. Avant que l'on aborde les sujets que venait de nous présenter Kelly dans les détails tout à l'heure, parmi les autres sujets d'actualité, depuis le dimanche 15 décembre 2013, le Parlement est en vacances sur fond de polémique pour ne pas avoir traité du budget alors que la session qui s'achève était budgétaire. Un bref commentaire.
Oui, Alain, vous me permettrez peut-être de, avant de commencer, de souhaiter meilleurs vœux à tous les auditeurs de Radio Capi parce que C'est peut-être la dernière émission de l'année.
Voilà,
effectivement. Et à tous les responsables, tous les journalistes aussi de Radio Okapi, tous les responsables de la MONUSCO, à commencer par M. Kobler, le général Wafi aussi. Et je voudrais aussi souhaiter bon anniversaire à tous les confrères journalistes congolais, même ceux qui sont à prison. Et si vous le permettez, à ma famille qui est à Kindo, à mon père aussi et ma mère.
Voilà, nous refermons la parenthèse, nous revenons à notre sujet, le Parlement qui est en vacances, mais la session est budgétaire et le budget n'a pas été traité.
Le budget n'a pas été traité, ça pose problème parce que normalement, quand on n'a pas épuisé, on convoque une session extraordinaire et la Constitution est claire. Ceux qui peuvent convoquer la session extraordinaire sur le bureau avec la demande soit du bureau, soit de la moitié des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou par le président de la République aussi peut convoquer, ou le gouvernement. Le problème maintenant est que, après la fin de la première session, la session d'octobre, normalement c'est 48 heures après qu'on doit convoquer une session extraordinaire pour épuiser la matière inscrite à l'ordre du jour, malheureusement jusqu'à présent. Il n'y a personne qui bouge, on ne comprend pas, on a voté un crédit provisoire pour une durée de un mois, et ce qui complique encore les choses, on ne sait pas où commencer, où terminer. Alors.
Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Albert a donné le ton. Un petit mot, les vœux aussi à certaines personnes que vous connaissez, parce que c'est pratiquement la dernière émission Tribune de la Presse de l'année.
Et merci de l'occasion Alain, c'est de présenter d'abord mes vœux le meilleur à ma très chère épouse Jocelyne Molicho Omokoko, qui suit régulièrement la Radio Capi, et à tous qui me connaissent, tous les confrères journalistes, et spécialement mes chefs hiérarchiques de la RTNC, commençant par notre DG, Mme Nicole Dibambu Kitoko Bwanga Muriel, et pratiquement à tous les Congolais.
Voilà, alors dans l'actualité aussi, il y a la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a patronné la cérémonie de mariage religieux de 720 couple des militaires hier jeudi. Ce n'est pas peu de choses, un commentaire.
Oui, Alain, vous savez que 702 couples...
720 couples.
720 couples,
720
oui. 720 couples des éléments des FARDC. Ce sont les officiers parce que c'est étape par étape. On a commencé par les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale. Et coup de chapeau à la première dame parce que il faut encourager la régularisation de mariage conformément à la loi, conformément au code de la famille, parce que vous savez que les gens accusent les militaires de prendre par-ci par-là, ou soit d'avoir 3 ou 4, 5 femmes et de ne pas légaliser leur situation matrimoniale. Comme ils sont soutenus, parce que vous savez que la première dame donne un peu de moyens aussi à chaque officier militaire ou de la police nationale qui vient d'officialiser son mariage, il y a une petite enveloppe qu'on donne pour un signe d'encouragement, et c'est significatif parce que vous savez que les militaires n'ont pas assez de moyens, et ça c'est pas un secret Alain.
Trésor Makunya Moindo, vous êtes journaliste à la radio Mitumba Duvira et correspondant du journal Sifia Grand Lac au sud Kivu. La brèche a déjà été ouverte, vous aussi un mot par rapport aux vœux.
Merci Alain pour cette opportunité. Mes vœux meilleurs à tous les auditeurs d'abord de la radio Okapi, de la radio onusienne, la République démocratique du Congo, mais aussi mes vœux à tous les journalistes du journal Sifia Grand Lac, partout ils sont dans la région de Grand Lac, au Burundi, au Rwanda et dans toutes les régions de la République démocratique du Congo, à tous les collègues, à tous les confrères, à tous les amis, à tous les membres de la famille et à tous ceux-là et toutes celles-là que je porte.
Alors Trésor, quelle est l'actualité à Uvira, au sud Kivu, où vous vous trouvez?
Oui Alain, en fait, à l'approche de ces festivités de fin d'année, Uvira vibre en fait sous le rythme de la recrudescence de l'insécurité en pleine ville. En fait, le 18 décembre dernier, des hommes en armes ont tiré à bout portant sur un paisible citoyen sans pitié ni piété après avoir volé dans une alimentation et chez une femme de bien de valeur. Dans plusieurs autres quartiers du sud, comme ceux du nord de la ville, des cas isolés, des vols sont signalés. D'ailleurs, la semaine passée, un policier a été surpris la nuit avec des choses volées. On se demande finalement à l'un qui sécurise, qui insécurise, qui également ces déplacements massifs de la population, qui allaient dans certains coins du territoire suite aux affrontements entre les forces loyalistes, les FARDC et les Front National de la Libération, les rebelles de Yaoundé, ils fracassent, ils pillent, ils volent, ils violent, ce qui en fait réjaillir encore
Merci.
La problématique des groupes armés étrangers, comme nous aurons à en parler avec l'intervention de la brigade avec l'intervention de la brigade des Nations Unies, donc ces forces, ces groupes armés étrangers qui sont actifs ou qui seraient actifs dans certains coins du pays, désolation et terreur aux yeux et au sud des autorités congolaises qui ne savent pas à ce jour protéger la population, pourtant elles ont cette obligation-là.
Voilà, nous allons aborder notre premier thème de ce soir, la coalition pour le vrai dialogue en République démocratique du Congo, CVD. Une plateforme de l'opposition exprime sa profonde indignation contre le gouvernement congolais qui a signé la semaine dernière à Nairobi les déclarations mettant fin à la rébellion du M23. Le coordonnateur de cette coalition s'est exprimé mardi dernier devant la presse à Kinshasa. Jean-Bertrand Ewanga pense que ces engagements constituent une voie de retour en force pour le M23 en RDC. Ces propos sont recueillis par Junior Kamunga.
La CVD dénonce des accords qui reprennent la quasi-totalité des revendications du M23 contenues dans l'accord du 23 mars 2009. Lesquels accords sont à la base de guerres à répétition contre le Congo et de la mort de plusieurs millions de Congolais. Et c'est plus le soutien recherché armes à la main par la guerre, ils l'ont obtenu et vont le récupérer progressivement et malicieusement par la grâce de ces engagements pris par la RDC à Nairobi. La CVD condamne donc la signature de ces engagements de la ONU. Elle refuse de cautionner toute démarche tendant à hypothéquer, sous une forme ou une autre, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la paix, la sécurité des Congolais ainsi que le destin national de tout un peuple.
Cette réaction de la coalition pour le vrai dialogue tombe quelques jours après celle des forces acquises au changement FAC, autre plateforme de l'opposition qui dénonçait déjà la semaine dernière les termes de ces déclarations qui, selon elle, ressemblent à un accord et accordent beaucoup d'avantages au M23. En réaction, le ministre Lambert Mende affirme que de telles critiques sont irrationnelles. Le gouvernement n'a pas déshonoré la République. Le M23 a été mis à sa place, déclare le ministre de la Communication et Médias. Lambert Mende est au micro de Jeff Ngoy.
Dire que le gouvernement a déshonoré et humilié la République démocratique du Congo avec la signature de ces deux déclarations est tout simplement insensé. De quel peuple congolais parle-t-on? Les premiers concernés, ce sont les populations de l'Est, ceux qui ont subi les affres de la guerre. Et ces gens viennent de démontrer, il faut être aveugle ou sourd pour ne pas avoir vu ou entendu les clameurs qui sont montées de la province orientale de Kivu, aussi bien Nord Kivu que Sud Kivu, lors du passage du président Joseph Kabila après la victoire militaire sur les M23 et pendant que se préparait la signature de ces deux déclarations. Ils ont réservé un accueil délirant qui dément ces critiques. Ce qui devait être fait a été fait. Nous avons refusé de signer un document avec le M23. Il n'y a aucun retour en force du M23. Nous avons poussé la logique de la qualification du M23 comme force négative jusqu'au bout.
Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. Comment vous analysez cette polémique et qui se passe sur un ton qui n'est pas du tout amical? On parle d'une déclaration de la honte du côté de l'opposition, des propos insensés du côté du gouvernement et même la majorité présidentielle a qualifié ces propos de la CVD, de l'opposition ainsi que celle de FAC de démagogique. Quelle est votre analyse?
Oui, moi je me réserve personnellement d'aller à l'extrême et à utiliser des qualificatifs assez sévères, peu courtois. Mais une chose est-il que l'accord devait être signé. Ça, qu'on le dise ou pas, l'accord devait être signé.
Degré ou défense.
Degré ou défense. Parce que quand il y a une guerre, on finit toujours par se mettre sur une table. Un accord est signé entre le vainqueur et le vaincu. Ceci pour prévoir qu'il n'y ait plus une autre guerre. Normalement, qu'on dise quoi que ce soit, l'accord devait être signé. Ça, c'est le principe. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a pu tirer de cet accord? Si vous regardez les termes de cet accord, vous constaterez que le gouvernement a pu avoir aujourd'hui le bénéfice parce que plus de la moitié des revendications du M23 ont été déjà annulées. Primo, quand on a signé les accords du M23 en mars, On était sous pression. M23 devait prendre, le CNDP plutôt devait prendre Goma. Et on s'est mis d'accord et on a cautionné, on a demandé à ce qu'on gèle le mandat contre Bosco. Et Bosco était d'accord de ne plus faire la guerre. C'est comme ça Kunda Batware est allé de l'autre côté au Rwanda et Bosco est resté avec les troupes. Ça, c'est de un. De maintenant aujourd'hui, est-ce que le contenu des revendications du M23 reste le même? D'abord, il y a une victoire militaire sur le terrain, ce qui rend le M23 faible par rapport aux premiers accords de mars 2009. Secondo, quand on a signé ces accords de M23, quel était le sort des éléments de CNDP? Leur sort, c'était l'intégration dans les forces armées, des forces. Donc, toutes les troupes de CNDP devaient être intégrées dans le FRDC, des forces. Violaire ou qui, tout le monde devait être intégré. Mais de quelle intégration? On a choisi le système de mixage, qui était différent des autres systèmes de brassage qu'on a fait pour les autres groupes armés. Le mixage, c'était quoi? Le M23 vient dans les FRDC avec les troupes, avec le même commandement. Donc, une armée dans une autre armée. Ce qui n'était pas du tout au goût du gouvernement et ce qui a permis encore à la naissance du M23. Et aujourd'hui, avec l'accord de Nairobi, on constate qu'il n'y a plus d'intégration au sein des FRDC. Tous les éléments du M23 doivent être démobilisés, être resserrés dans la vie sociale. C'est que déjà, c'est un point acquis. Et ces éléments, lesquels seront démobilisés et resserrés? Ceux qui voudront entrer dans les FRDC pourront le faire à titre individuel. Mais est-il qu'il ne faut pas qu'ils fassent partie des gens qui ont des dossiers noirs, c'est-à-dire qui ont violé, qui ont tué, ainsi de suite?
Et donc, pour vous, le gouvernement a gagné sur tous les plans dans ses déclarations, contrairement à ce que dit l'opposition?
Pas sur tous les plans, mais au moins, à grande partie, le gouvernement a gagné. Si peut-être vous me donnez le temps de terminer un peu. Donc, vous verrez que le problème d'intégration, le gouvernement a gagné sur ces points. Le problème d'amnistie aussi. On ne va pas amnistier tout le monde. On va amnistier seulement ceux qui n'ont pas de dossier. On a vu aussi le problème des retours des réfugiés. Voilà. Les retours des réfugiés, là, c'est intact. Le problème n'a pas été résolu. Parce qu'il y a des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda. Et il faut maintenant qu'on trouve. L'EHR a trouvé une formule, mais qui n'est pas acceptée par les autres. Bon, il y a d'autres points qu'on va développer.
Nous allons revenir sur les autres points avec vous, Albert Rumba. Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Comment vous, vous analysez cette polémique et, par-delà la polémique, comment vous, vous analysez le fond même de ces déclarations? Albert Rumba a évoqué certains points positifs ainsi que d'autres négatifs. Quelle est votre analyse?
Voilà, moi je dirais que bon, l'opposition ne peut qu'afficher la position de l'opposition, c'est sa position. Elle est dans son rôle, elle peut dire ce qu'elle peut, toujours contre le gouvernement, c'est son rôle en tant qu'opposition ou opposant. Mais moi je dis que c'est la même opposition qui avait accusé le gouvernement il y a quelques mois, depuis que la rébellion du M23 s'est déclenchée dans l'Est, que non, le gouvernement Kinshasa ne fait rien pour mettre fin à cette rébellion, et les militaires ne sont pas motivés, tout ça. Mais pendant que les militaires ont prouvé le contraire, ils ont montré leur prouesse jusqu'à remporter la victoire dans 10 jours sur le programme de 30 jours qui était planifié dans cette opération contre les M23. On n'a pas vu l'opposition encourager les forces armées de la République démocratique, ni le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est en train de tout faire pour activer les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on arrive à des déclarations de Kampala, l'opposition dit autre chose. Mais c'est de leur droit. Mais c'est ça que moi j'ai dit que on pouvait toujours arriver à un accord parce que les négociations ont commencé il y a 12 mois, depuis le mois de décembre de l'année dernière. Il fallait arriver à un accord, même si sur le terrain des opérations, les données ont changé. La politique, il faut toujours les rappeler, la politique c'est un jeu d'intérêt et de rapport de force. Sur le terrain, les rapports de force ont changé. Ce sont les forces armées de la République démocratique qui avaient de l'ascendance sur les M23. Vous vous souvenez quand on avait pris Goma l'année dernière, mais c'était la panique, même au niveau du gouvernement qui chasse ça. Mais présentement, ce sont les forces armées de la RDC, les FRDC, qui sont montées en puissance contre les M23 et le résultat est là. Donc, moi je pense que les déclarations ont été signées, mais en des termes faibles, c'est contre les M23 et pour la République démocratique du Congo, parce qu'il fallait arriver à des accords, même si l'Ouganda est accusé, entre guillemets, de soutenir les M23 et les autres forces négatives sur le terrain des opérations.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à certains analystes qui pensent que, pour eux, le seul point positif de ces déclarations, c'est le fait que ces déclarations aient simplement mis fin au pourparlers de Kampala et pas plus?
Oui, il y avait un début, des pourparlers de Kampala, il doit y avoir une fin. Et la fin, c'est ça, c'est toujours en rapport avec les rapports de force sur le terrain. Et vous vous souvenez, après la chute de Tianzhu, où on a eu beaucoup d'armes que le gouvernement a récupérées, que les forces armées de la République démocratique ont récupérées sur les terrains d'opération, les M23 ne restaient que sur papier. Et peut-être il fallait chercher les moyens pour les donner de l'espoir. Voilà pourquoi, même au niveau de la déclaration conjointe des envoyés spéciaux qui ont affiché leur déclaration le même jour de la signature des déclarations de Kampala et du communiqué de Nairobi et des déclarations de Nairobi, vous sentez vraiment que la déclaration de la Maison Blanche est sur la région des Grands Lacs, la déclaration conjointe des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs sur les conclusions du dialogue de Kampala, c'est presque en des mêmes termes que Joseph Kabila avait annoncé. Et Joseph Kabila avait annoncé qu'avant le 15 décembre, il faut qu'on arrive à un accord, qu'on conclue cette affaire de Kampala pour que qu'on démarre avec la reconstruction et le développement de l'Est de la République démocratique du Congo.
Trésor Makunya Muindo, journaliste à la radio Mitumba d'Ovira et correspondant du journal Sifia Grand Lac au sud Kivu. Comment vous analysez cette situation?
Oui Alain, en fait nous sommes dans une société démocratique et il est normal que les citoyens congolais, généralement regroupés dans des FDL ou des partis politiques essentiellement dans l'opposition pour le cas qui nous concerne, critiquent les accords conclus par le gouvernement. Mais personnellement, je crois que les débats pourraient aller au-delà de cette guerre sémantique et des refus de certaines clauses contenues dans ces documents finaux. Pour moi, s'il n'y avait pas de guerre à l'est du pays, franchement, les affrontements, on n'assisterait pas au Kampala, à Nairobi, à Addis Abeba, à Goma, à Pretoria, voire à New York. Donc il est temps pour nous, Congolais, de nous interroger sur les origines de toutes ces rébellions, parce que sans ces rébellions, on n'aurait pas des accords qui sèmeraient des paniques, sur des polémiques également sur le sens sémantique. Sans vouloir vraiment faire un rabat-joie, je considère ces déclarations de Nairobi comme les accords du 23 mars. Comme l'accord cadre d'Addis Abeba, quasiment violé par les partis. On peut déclarer aujourd'hui et demain en viol, ça n'intéresse personne. C'est pourquoi, par exemple, moi, je suis vraiment sceptique quant au respect du point 8.2 de l'article ou de la déclaration du M23 qui accepte, en vue de mettre fin à l'impunité, qu'il y ait des poursuites pour crimes de génocide, des guerres contre l'humanité, violences sexuelles et recrutement d'enfants soldats, soit engagé à charge de tout présumé auteur membre du M23. Souvenez-vous que la mutinerie avait commencé quand on voulait arrêter Ntaganda. Je ne vois pas, donc, même si le M23 sait aujourd'hui que ses membres soient traduits en justice pour les crimes commis, si jamais on les présume comme fauteurs, je ne vois pas comment les Makenga, les Kazarama seraient livrés. Ça pourrait créer également une autre mutinerie. Est-ce pour autant qu'il faut les laisser circuler et favoriser l'impunité? Non, c'est pourquoi notre pays devra voir quelles sont les mesures pour sécuriser ses frontières. Généralement, c'est de ce côté-là que moi j'analyse les faits et les remontes dans l'histoire. Depuis 1996, Alain, nos voisins, le Rwanda et l'Ouganda, prétendant que la RSDC héberge des rebelles hostiles à leur régime, avec Nalour, LRA pour l'Ouganda, FDLR pour le Rwanda, FNL pour le Burundi, n'hésite pas à financer des groupes rebelles au Congo au motif qu'il faut sécuriser les frontières congolaises pour que le Rwanda ou l'Ouganda soient aussi en paix. Mais lorsqu'on regarde à fond, ce sont des motifs purement économiques, les exploitations des nombreuses ressources naturelles congolaises. N'a-t-on pas raison de rappeler que les propos de Sarkozy selon lesquels la RDC devrait partager ses ressources avec ses voisins? Moi je pense que c'est de ce côté-là qu'on pourrait voir la solution, chercher à résoudre les causes de nos conflits, les causes de toutes ces rébellions, pour ainsi pallier ipso facto aux conséquences. Parce que lorsqu'on résout les conséquences par ces déclarations, et que les causes restent intactes, on pourra rester dans les statu quo, on demeure là et
Trésor.
Oui,
alors Trésor, vous dites que vous considérez les déclarations de Nairobi comme toutes les autres déclarations qui ne sont pas respectées par les différents protagonistes. Et donc, si je vous comprends, vous n'accordez aucune valeur à celles-ci.
Exactement, il n'y a aucune valeur parce que les excès ou les précédentes déclarations, les précédents accords nous ont déçus. On pensait par exemple à travers l'accord cadre d'Addis Abeba, le Rwanda et l'Ouganda essentiellement respecteraient leurs engagements. Mais vous suivez l'actualité qu'au moins ils sont en train encore de réorganiser la mutinerie du M23, peut-être sous un autre nom, pour revenir au pays. Alors qu'ils sont partis à l'accord d'Addis Abeba, ils sont partis à plusieurs autres engagements, ils sont précurseurs même plusieurs négociations, notamment les négociations des Kampala. Donc pour moi, qu'il y ait déclaration à Nairobi ou pas, la situation restait la même, parce que déjà les RDC avaient déjà gagné sur terrain et qu'on n'avait même pas besoin de signer ces accords. Mais comme on le disait, il fallait les signer pour mettre la clé sur l'opération de ces négociations des Kampala. Mais vraiment, je ne vois pas que ces déclarations unilatérales de Nairobi résolve la situation sur terrain.
Merci, Trésor.
Qui a un crédit à ces déclarations.
Merci, Trésor. Albert Rumba, vous avez pourtant relevé des éléments positifs, notamment l'intégration, l'amnistie, mais Trésor, lui, pense qu'il n'accorde aucune valeur à ces déclarations, tenant compte de ce que l'histoire nous a appris, le non-respect des engagements de part et d'autre.
Bon, le fait que les accords ont été signés devant la communauté internationale et aussi devant les responsables des groupes de pays de Grand Lac et de la SADC, c'est la porte à connaître que il faut à tout prix, quand on termine une guerre, l'M23 a été vaincu par le gouvernement. Maintenant, quel est le sort de ces militaires, de ces éléments de M23, pour qu'ils ne trouvent pas prétexte et à revenir encore attaquer la RDC, pour que l'Ouganda ne puisse pas trouver prétexte de les héberger et de les armer pour les renvoyer à RDC? Il a fallu signer cet accord pour dégager le principe qui va permettre la suite des événements. Ce principe, c'est la démobilisation et la réinsertion. D'abord, le désarmement. C'est l'Ouganda qui doit désarmer tous ses milices et puis les démobiliser et les renvoyer à RDC. La RDC va maintenant s'occuper pour les réinsertions. Le problème maintenant, c'est comment trouver l'argent pour les réinsérer. Il faut pas que le gouvernement s'occupe seul de ce problème de démobilisation parce qu'il n'a pas le moyen. Il faut que le gouvernement demande l'aide de la communauté internationale parce que si tous ces éléments restent confinés dans un seul endroit, c'est normal qu'un jour ils puissent encore reprendre leur travail encore nuisible. Alors, je voudrais aussi aller plus loin pour dire que quand il y a une guerre, on doit toujours signer un accord. C'est l'accord, on finit toujours sur une table. Même la guerre mondiale, toutes les guerres que nous connaissons, ça s'est terminé sur une table, on a signé des accords.
Oui, mais Claude Molicho, il faut signer des accords. Les guerres se terminent toujours par cela. Mais Albert Omba a souligné dans sa première intervention qu'il y avait, par exemple, la question comme celle des réfugiés qui est consignée dans les déclarations de Nairobi, mais qui n'est pas du tout résolue.
Oui, ça doit être résolu parce que ce que Albert Omba n'a pas dit, c'est que quand on parle de désarmement, la démobilisation, la réintégration des membres de M23 en RDC, on a ajoute encore qu'au Rwanda et en Ouganda, selon les cas, parce que c'est dans ce sens-là qu'on doit essayer un peu de voir les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, en Ouganda, ou soit au Burundi, et vice-versa, pour essayer un peu de résoudre cette question. Ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans la région. Donc, les déclarations signées séparément à Nairobi et les communiqués conjoints, donc il faut les prendre ça globalement et d'une façon inclusive pour dire que c'est dans la région des Grands Lacs, spécialement dans les pays limitrophes de la RDC dans l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, où on doit prendre cette déclaration dans sa globalité pour essayer un peu de toucher ces réfugiés qui sont dans ces trois pays, dans ces quatre pays, afin que les choses rentrent à la normale. Et là, on répare d'une nouvelle base avec ce qu'on appelle la coopération ou les rapports de bon voisinage entre l'Ouganda et le Congo, le Rwanda et le Congo, le Burundi et le Congo, et que tout le monde respecte le principe d'intangibilité des territoires de son voisin.
Trésor Makunya n'a-t-il pas raison quand il émet des craintes par rapport au respect de toutes ces déclarations, Claude?
Oui, il a raison, parce qu'il se base des expériences du passé. Mais cette fois-ci, il y a une donne nouvelle pour dire que c'est pas comme les accords qu'on a signés à Goma ou soit les accords du CNDP. Non, cette fois-ci, il y a une nouvelle donne.
C'est laquelle?
La victoire militaire. Parce que l'M23 n'a plus rien. On a récupéré toutes les armes du M23. Et les leaders politiques comme militaires du M23 sont à l'extérieur du pays, ils cherchent maintenant à se repositionner. Et comme il y a eu, vous savez que les jours même que les forces armées de la République démocratique du Congo ont remporté la victoire sur le M23, il y a une déclaration qui vient de l'Union européenne, des pays occidentaux, que non, il faut à coûte que coûte arriver à un accord. Il y a une pression extérieure également. Effectivement, il fallait y arriver. Et nous sommes arrivés. Les États-Unis ont exercé une pression sur le Congo, sur la situation du Congo. L'Union européenne
c'est afficher une déclaration ouverte pour dire qu'il faut parvenir à un accord. Et voilà, l'accord a été signé avant le 15 décembre. Et maintenant, il faut répartir ces nouvelles bases. Donc, notre confrère Trésor Makunya a raison, parce que les expériences du passé nous ont montré que les termes de l'accord n'ont pas été respectés. Mais cette fois-ci, il y a une nouvelle donne. C'est ce qui fait que les forces armées de la République du Congo sont montées en puissance. Ça, c'est un aspect très, très important à souligner.
Trésor, avant que l'on aborde notre deuxième thème de ce soir, une brève réaction. Vous avez suivi les confrères Albert Omba et Claude Molichaud qui sont optimistes. Cela ne devrait-il pas vous encourager également?
Oui, ça devrait m'encourager vu le dernier aspect de l'intervention de Claude. Quand on dit qu'il y a une nouvelle donne sur le terrain, c'est ce que je veux, que les FARDC soient très bien organisés, que leur mouvement soit standardisé, que notre force soit comme toutes les autres forces des autres pays. Il y a peu, on nous disait que nos forces ne peuvent même pas tuer des rats, des souris. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est ce que nous voulons. Mais au niveau des déclarations, c'est là que moi, j'ai pas été d'accord avec Albert quand on dit que les choses ont changé. On met les Rwanda et l'Ouganda devant leurs preuves, devant les faits en Nairobi. Non, à Addis Abeba, ils ont été également là. Dans la CIRGL, ils ont été également là. Mais ça ne résout rien. Parce que pour eux, la RDC héberge des forces et groupes armés qui sont hostiles à leur régime. ANF Nalu, LRA pour l'Ouganda, FDLR pour le Rwanda et d'une manière ou d'une autre, le FNL pour le Burundi. À ce niveau, on se dit finalement, les FDLR sont restés. C'est le deuxième thème, bien sûr, on va en parler. Mais lorsqu'on vérifie cela, on a fait soigner que les conséquences du mouvement du 23 mars qui va disparaître, comme le CNDP est disparu, comme le FCD est disparu, comme la FDL est disparu, le 23 disparaît aussi. Pourquoi on n'assisterait pas à d'autres mouvements prochainement? Parce que les causes sont restées intactes.
Merci,
les conséquences ont été soignées, bien sûr. Merci. Voilà comment on peut voir cette
situation. Je vois Albert Omba demander instamment la parole. Une très brève réaction, nous allons passer au deuxième thème, Albert.
Oui. Les causes sont restées intactes, Trésor, vous avez raison, mais ce qu'il faut, c'est le gouvernement qui doit tout faire pour éviter que ces causes ne produisent les mêmes effets que dans les cas précédents, c'est-à-dire occuper les territoires de l'Est, centimètre carré par centimètre carré.
Nous abordons notre deuxième thème de ce soir. La brigade d'intervention de la MONUSCO a lancé le 9 décembre dernier des opérations offensives contre les FDLR dans la région de Kalembe. C'est à quelques centaines de kilomètres au nord de Goma, dans le territoire de Masisi. L'annonce est faite par le commandant des forces de la MONUSCO. Dans une interview exclusive à Radio Okapi, le général Dos Santos Cruz a affirmé que cela constitue un vaste plan des opérations contre les groupes rebelles locaux et étrangers actifs dans la région. Bernardin Nyangui, reportage.
La priorité pour la FIB MONUSCO, c'est de mener des attaques contre les FDLR, selon le général Dos Santos Cruz. Les premières opérations lancées contre ces rebelles auto-rwandais en secteur de Kalembe, en territoire de Masisi, ont pour l'objectif de libérer la route Kichanga-Kalembe-Pinga. Il ajoute que la MONUSCO va en plus renforcer son appui au FARDC pour la traque contre les ADF Nalu et autres groupes armés locaux. Le commandant de la MONUSCO dit avoir pris des précautions pour sécuriser toute la zone frontalière entre la RDC et les pays voisins pendant ces opérations, général Dos Santos Cruz.
La présence des groupes armés le long de la frontière crée les problèmes avec les États voisins. Nous avons déjà intensifié les patrouilles le long de la frontière et nous planifions des actions contre toute position des rebelles, tolérance zéro pour tout groupe armé qui se trouve vers les frontières.
Au sujet notamment des groupes de Sadala Morgan et Kopra Matata en Ituri, le général Dos Santos Cruz dit avoir planifié avec le commandement militaire sur place un renforcement d'appui au FARDC pour des opérations offensives contre ces groupes armés qui insécurisent la population. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Merci Bernardin Nyangui. Trésor Makunya Muindo, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Mitumba d'Uvira et correspondant du journal Sifia Grand Lac au sud Kivu. Des opérations offensives lancées contre les FDLR, les ADF Nalu et même les groupes armés locaux. Comment vous analysez ces opérations, vous qui vivez dans l'est de la RDC?
Oui, en tout cas, quelqu'un qui a souffert pendant très longtemps des atrocités de ses forces armées étrangères ne peut souhaiter que la bienvenue à ces opérations. Pour moi, en tout cas, dans tous ces conflits, il est important de rechercher les solutions durables afin de réduire progressivement, donc un temps soit peu, la capacité de nuisance de ces forces rebelles étrangères qui violent qui vole, qui la population civile, sans pitié. Notre unique péché est d'avoir accepté les couleurs humanitaires imposées au profit des Hutus rwandais, mais aussi d'avoir des autorités qui n'ont pas su prévenir ces souffrances. Donc, au stade actuel des choses, l'engagement de la communauté internationale, à travers la brigade d'intervention, la communauté internationale qui a demandé il y a deux au Zaïre d'ouvrir les couloirs humanitaires, a fait justement que la capacité de nuisance de ces forces rebelles, FDLR, IDF, NALU, a dépassé les limites. C'est bon de jouer aux pompiers après avoir allumé le feu et l'activer. Les attaques, pour nous, actuellement, Alain, ne sont pas un luxe pour le pays, ne sont pas un objet de publicité pour la RDC qui a l'obligation rosalienne de protéger ses frontières, mais incapable de tout le faire. Les FDLR ont violé, souvenez-vous, il y a un procès qui s'était tenu en 2011 à Calais, où plus de 400 femmes ont été victimes d'atrocités d'un groupe des FDLR qui ont été jugés. Donc, pour moi également, il y a une sorte de complicité. Il faut éradiquer ces mouvements, oui, mais avant, comment ces mouvements vivaient? Ces mouvements exploitent les ressources naturelles congolaises qui sont vendues pour s'autofinancer. Comment ces minéraux passent nos frontières pour être commercialisés ailleurs? N'a-t-on pas assisté à l'arrestation d'un jet à l'aéroport de Goma? Donc il y a des complicités qui devraient aussi, en même temps qu'on traque les rebelles, en même temps aussi qu'on démantèle ces groupes qui favorisent l'expansion de ces mouvements rebelles dans notre pays. Cela pourrait aussi nous aider parce que nos voisins sont en train de nous dire que nous aiderions les forces qui les fracassent chaque jour, et même pour le Burundi, Pélé au Rwanda, Ouganda. Si on arrive à mettre fin à ce mouvement, je crois que l'intrusion de l'Ouganda et du Rwanda dans notre pays n'aura pas d'effet. Même si nous savons à fond que l'intrusion n'est pas de protéger leurs frontières, mais ce sont des motifs purement économiques.
Merci,
Alain, il fallait aussi dans ces opérations
de trésor civil. Voilà, Trésor souffrait que je vous arrête parce qu'il nous reste juste une dizaine de minutes pour terminer cette émission. Claude Molicho-Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Trésor Makunya, que nous venons de suivre, salue le lancement de ces opérations par la brigade d'intervention de la MONUSCO ainsi que les FRDC, mais il pense qu'il faudrait trouver des solutions durables. Quelle pourrait être cette solution d'après vous?
Moi, je pense que ces solutions doivent rester militaires, parce que la MONUSCO, on a comme l'impression que la MONUSCO ne fait pas ce qu'elle doit faire, ou les forces de la MONUSCO ne font pas ce qu'elles doivent faire, en collaboration bien sûr avec les FARDC.
Sans oublier qu'elles ont un mandat, ces forces.
Bien sûr, elles ont un mandat, mais elles ont des capacités, cette force a des capacités de faire plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Quand on dit que, au niveau de l'Ouganda, c'est l'armée ougandaise qui est en train d'escorter Makenga, Sultan Makenga. Quand on dit que les aides Nalu sont soutenus par Museveni, par l'armée ougandaise, quand on dit qu'il y a des preuves qui montrent que la MONUSCO, comme c'est une structure universelle, c'est les Nations Unies, c'est pas seulement les forces armées de la République qui doivent s'arrêter à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, mais les Nations Unies peuvent aller au-delà des frontières pour chercher à pacifier et à mettre fin à l'activité de toutes ces bandes armées. Mais la MONUSCO ne fait pas ce qu'elle doit faire. Voilà, je me dis que la solution viendrait de cette brigade d'intervention qui travaille sous le label de la MONUSCO en complicité avec les FRDC, parce que les informations circulent, il n'y a pas de secret. C'est l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train d'instrumentaliser ceux qui sont dans l'Est comme force négatif, que même les Nations Unies ont qualifié de négatif. Mais elle les laisse jouer au commerce de trafic de minerais et qui passe par Kampala ou soit par Kigali avant d'aller à Londres.
Mais n'est-ce pas pour ça que la brigade d'intervention a été instituée, Claude Molicho?
Oui, la brigade a été instituée, mais nous devons attendre les résultats de cette brigade conformément à sa mission.
Et donc pour vous, par exemple, la brigade devrait aller en Ouganda, au Rwanda, jusqu'à la...
Oui, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de congé de vérification qui traverse en collaboration avec la MONUSCO dans l'Est de la République démocratique du Congo et donne des informations, mais on a comme l'impression qu'il y a des fois, la MONUSCO, elle refait le pas en arrière, elle fait le pas en arrière, et il y a des fois où elle avance. Non, c'est pas normal, c'est pas crédible. La MONUSCO doit jouer son rôle et elle doit jouer son rôle pleinement conformément à son mandat et elle doit aller même à Kigali, à Kampala pour chercher la paix dans la région. C'est vraiment dans l'intérêt de la communauté internationale.
Albert Rumba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. Comment vous analysez la proposition de Claude Molicho sur le rôle des Nations Unies, de la brigade? Quelle est votre proposition?
Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec Mauricio. Vous savez, il faut aller sur le terrain pour comprendre les choses. Quand les gens se posent la question, bien sûr, on dira parce que tu es trop lié aux Nations Unies ou à Monusco, c'est pourquoi tu dis non. Au jour d'aujourd'hui, la seule force qui peut localiser d'une façon, selon la cartographie, je prends la cartographie FDLR, vous commencez depuis le sud, dans le territoire de Walungu. Vous allez plus loin, à l'est, Chabunda. Vous remontez vers Kalehe. Vous allez un peu plus à l'est, à Walikale. Vous remontez encore jusqu'à Masisi. Walikale encore à l'est. Et vous allez jusqu'au niveau de Rutshuru. Je m'arrête là. Ce territoire vaste, qui est un territoire forestier, est géré par qui? Ce n'est pas la MONUSCO qui doit aller gérer ce territoire. Ça, c'est de un. De deux, la MONUSCO, avec le travail qui est sur le terrain, a pu localiser, au moins, tous les groupes. On sait que tel groupe, avec une dénomination et un code bien précis de FDLR. Sur le territoire de Calais, par exemple, on avait installé tous les systèmes et localisés. On avait même mis un système de téléphonie où on devait, avec une méthode de cachée, donner l'information. Maintenant, aujourd'hui, les FDLR, d'abord, ils opèrent comment? Les FDLR n'opèrent pas comme les M23. Ce sont des petits groupes qui ont évolué en République démocratique du Congo depuis plus de 14 ans. Ils ont des racines. Ils sont soutenus par beaucoup de populations congolaises. Pour les déraciner, il faut l'appui d'abord de la population civile, des FRDC, et la MONUSCO viendra en appui à troisième position. Dire que la MONUSCO ne fait pas son travail, là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire, chaque responsable, tous ces territoires jadis vides, inoccupés par les FRDC, doit être occupé. Vous prenez le territoire de Walikale. Il y a combien de militaires FRDC qui occupaient le territoire de Walikale depuis 10 ans? Il n'y en a pas.
Voilà, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Je vais vous redonner la parole pour un dernier tour de table. Albert Rumba, juste émettre un vœu par rapport à la RDC. 2014, c'est dans quelques jours.
Oui, 2014, il faut que les responsables congolais puissent, après avoir eu leur victoire, la victoire de tous les Congolais sur les rébellions, essayer de canaliser cette victoire, de bien gérer, de mettre un appui très très sérieux au FRDC, de mettre le moyen pour que ce genre de problème des rébellions ne puisse plus naître, comme ils le font maintenant.
Claude Molicho, un vœu également.
Oui, avant d'exprimer ce vœu-là, je vais répondre un peu à Albert.
Très rapidement.
Quelques secondes. Je ne dis pas que la MONUSCO doit gérer quelques parties de l'Est de la République démocratique. Non. Nous disons que nous sommes dans un monde d'information. La MONUSCO est une structure la mieux informée. Si pas du monde, si de l'Afrique ou de la région. Le problème, c'est de gérer les informations et de trouver les, d'atteindre les résultats conformément à la mission. C'est ce que j'ai dit que la ministre de la MONUSCO ne fait pas ce qu'elle doit faire. Bon, j'ai dit que par rapport aux vœux, le Congo, c'est un pays d'avenir. Les Congolais doivent savoir, doivent mettre ça en tête, que le Congo, c'est un pays d'avenir. Même s'il y a des petites situations difficiles aujourd'hui, qui se terminent déjà d'ailleurs, le Congo, l'année 2014, c'est l'année de l'avenir. Mais ce que les responsables congolais, ou soit les autorités congolaises, doivent tenir, c'est de tenir compte du temps. Le temps ne permet jamais ce qui se fait sans lui ni contre lui. Tenir compte du temps pour essayer un peu d'avancer.
Trésor Makunya Moindo, un vœu également par rapport à la RDC pour l'année 2014.
Je souhaite que l'année 2014 soit une vraie année de protection de la population civile dans tout le pays, essentiellement à l'Est. Cette population longtemps meurtrie par des groupes, par les atrocités des groupes armés, tant étrangers que nationaux. Il faudrait aussi que les autorités congolaises cherchent des vraies solutions, des solutions durables et non des solutions éphémères au conflit. Et puis, arrivons aujourd'hui, demain, aujourd'hui, et puis rien n'est fait pour faire des solutions durables.
Merci.
Nous les attendons pour 2014.
Merci, merci chers confrères d'avoir participé à cette émission. C'en est fini pour la dernière tribune de la presse de l'année 2013. Kevin Kouté était à la réalisation et Guy Manzangou à la technique, coordination et présentation Alain Roumouchige. L'équipe de Dialogue entre Congolais vous présente ses vœux les meilleurs et vous souhaite une bonne année 2014. Au revoir.